Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce midi, dans le cadre du week-end états-unien de France Culture à quelques jours de l'élection présidentielle, nous allons parler de l'américanisation de nos assiettes à travers un exemple, le petit déjeuner. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde l'alimentation sous toutes ses formes et qui en décrypte tous les enjeux. Cher Matteo Caranta, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous nous proposez comme chaque dimanche une madeleine aux alentours de 12h15. Avec qui donc ce midi ?
Bien, vous l'avez reçu dans la matinale du samedi il y a quelques semaines. C'est le grand écrivain et académicien franco-libanais Amin Mahalouf qui m'a confié son souvenir culinaire et sa madeleine tombe à pic.
Quant à notre plat du jour, le voici.
Tu viens ? On va leur faire une surprise.
Le soleil vient de se lever. On est heureux de retrouver la vue
petite. C'est l'heure du petit-déj.
Tu manges quoi ?
Des céréales.
Je pensais que le petit-déjeuner était prêt.
Il l'est, madame. Je ravive le feu.
Oh, à l'avenir, ne nous appelle pas avant que tout soit prêt.
Du café, de la chicorée, du magnésium. Pour un réveil de bonne humeur.
Oh, dommage que t'aies pas le truc pour faire la cuisine. Demain matin, je devrais faire mon special breakfast. Bacon, pancakes, you know?
Le petit déjeuner a toujours été mon repas préféré. Chaque matin, j'étais fier d'aller chercher le pain pour toute la famille. C'est si bon le pain.
Ce bagel-là est vraiment réussi. Il est frais, doré, avec une touche de sésame, puis il est parfaitement grillé.
Personnellement, j'ai résolu tous mes problèmes de petit déjeuner. Je suis pas un sucré, moi. Je suis un salé.
Que nous le prenions sucré ou salé, nous allons nous demander s'il faut déclarer la guerre au petit déjeuner, ce repas qui a longtemps constitué un parent pauvre de la gastronomie française, mais qui est en train de changer, voire qui pourrait bien disparaître de nos habitudes alimentaires avec la montée notamment des nouvelles tendances, locavorisme, jeûne intermittent et autres breakfast ou brunch qui nous viennent des pays anglo-saxons. Gilles Fumet, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes géographe, professeur de géographie culturelle à la Sorbonne Université, spécialiste de l'alimentation auquel vous avez consacré de nombreux ouvrages. Et le dernier en date a pour titre « Feu sur le breakfast ». Il vient de paraître aux éditions Terre Urbaine. Christian Gattalou est également avec nous, bonjour.
Bonjour Caroline Brouet.
Géo-historien, professeur émérite à l'université Paris-Diderot. Vous êtes-vous l'auteur de nombreux atlas historiques. Le livre qui nous a intéressés pour cette émission a paru en 2017, mais il vient tout juste de sortir en poche. C'est Le Monde dans nos tasses, 3 siècles de petits déjeuners, paru initialement chez Armand Collin. Christian Gattalou, justement pour commencer, vous dites dans ce livre... La carte du petit déjeuner est mondiale. Vous racontez qu'il est le fruit, ce petit déjeuner, de croisements parfois surprenants. En quoi le petit déjeuner est-il une des manifestations de la mondialisation ?
Alors, il est une manifestation d'une mondialisation européenne, parce que c'est un repas qui est né en Europe au XVIIIe siècle, chez les riches d'abord, puis qui s'est diffusé, à base de boissons tropicales, du thé, du café et du cacao, avec de la canne à sucre, enfin du sucre de canne, et qui de ce fait était déjà mondialisé, puisque les produits venaient du monde entier, le cacao est américain, le thé est asiatique et le café africain d'origine. Et vous aviez là quelque chose où on a inventé des plats et un repas nouveau à partir de ces boissons qui venaient du monde entier. Et réciproquement, les Européens, en colonisant le monde à la fin du 19e, ont diffusé ce type de repas, ce modèle très stéréotypé du petit déjeuner.
Ce qui vous fait dire, sans esclavage, le petit déj ne serait sans doute pas apparu.
Oui, parce que pourquoi les Européens sont partis pendant 3 siècles jusqu'au 19e, pour aller chercher ce qu'ils n'avaient pas chez eux. Et d'abord et avant tout, des plantes tropicales qui ne pouvaient pas pousser chez eux. Et ni les caféiers, les cacaoyers, ni la canne à sucre, ni le théier ne poussent en Europe. Donc, il fallait contrôler des territoires sur lesquels on pouvait faire pousser ces plantes qui devenaient progressivement indispensables aux Européens. C'était coûteux, ça nécessitait d'aller loin, et surtout, cela entraînait la nécessité de main-d'œuvre, d'où la transatlantique à partir de l'Afrique. noire.
Donc, une invention née de la mondialisation, et en Europe en particulier. Est-ce que, Gilles Fumet, de la mondialisation, on peut parler, en tous les cas, dans les dernières années, disons, de notre monde contemporain, d'une américanisation de nos tasses, pour reprendre le titre du livre de Christian Grataloup? C'est le monde anglo-saxon qui a inventé le breakfast, qui a créé, disons, le breakfast au 18e et au 19e siècle.
Oui, l'industrialisation peut-être avant l'américanisation, dans le sens où il est vrai que une grande partie des boissons qui sont consommées le matin, en particulier le chocolat, mais aussi le café, le thé un peu moins, mais nécessite enfin une transformation par l'industrie. Et ça s'est fait largement dans les pays anglo-saxons, bien sûr, notamment en Angleterre d'abord, et puis ensuite en Allemagne, en Suisse. Et donc là, il y a eu une mainmise de l'industrie sur ces boissons qui ensuite se sont avérées comme étant des moyens de satisfaire une forme de curiosité un peu nouvelle. Il faut voir quand même qu'au XIXe siècle, l'Europe est encore majoritairement paysanne et que ces boissons tropicales, elles restent confinées aux sphères bourgeoises. Et donc, il y a évidemment tout un système de transmission qui va se faire du haut vers le bas de la société, qui va donc progressivement amener les industriels à démocratiser ces produits-là en industrialisant les processus de fabrication et donc en faisant baisser les prix et en offrant par la publicité ce message, effectivement, que moi, personnellement, je trouve erroné, qui est que le petit déjeuner, tel qu'il est présenté, est le repas le plus important de la journée.
Oui, ça, on en parlera après la Madeleine, bien entendu. Christian Grataloup.
Le lien avec les grandes entreprises est encore plus ancien, parce que les compagnies des Indes, qui étaient les seules à maîtriser effectivement les voyages lointains, en particulier vers l'Asie, sont les grandes entreprises qui étaient partie étatique, partie privée, qui ont pu ramener le thé, ça c'est la VOC hollandaise, hein, puis ensuite, bien sûr, la compagnie des Indes britanniques, mais aussi maîtriser le commerce du café, du cacao, par exemple, la compagnie des Indes françaises a joué un rôle dans la diffusion des caféiers dans les îles, le café des îles qui va se diffuser au XVIIIe siècle.
Mais si on se rapproche plus de notre époque contemporaine, de notre époque même actuelle, si on parle d'américanisation, il suffit qu'on regarde nos tasses, et pas seulement justement le chocolat, le thé, le café, mais aussi dans quoi nous les buvons, Christian Grataloup, nous les buvons dans des mugs la plupart du temps, on utilise des toasters, autant d'objets industriels, mais d'objets qui servent au petit déjeuner des Français, qui nous viennent des États-Unis.
Alors, le mug n'est à l'origine pas un mot anglais, mais hollandais, et qui a un parent français qui est mock, qui désignait un verre, enfin une espèce de chope, exactement, qui était utilisé en Normandie en particulier, alors là, plutôt pour du cidre. Mais c'est exactement le même objet. Simplement, quand on boit du café très allongé, effectivement, la tasse devient grande et le mock est devenu le mug anglais. Mais effectivement, c'est la différence de la petite tasse italienne qui est un mot italien, qui a une autre histoire.
Il y a ce qu'on met dans nos tasses, il y a ce qu'on met dans nos mugs, il y a ce qu'on met dans nos bols, Gilles Fumet, les céréales.
Les céréales. Alors là, les céréales, oui, ça c'est c'est proprement une invention américaine. Initialement, donc, soufflé pour, en tout cas, combattre dans beaucoup de sectes protestantes l'alcoolisme, parce que on pensait que les malades de l'alcool pouvaient retarder leur prise d'alcool en mangeant des céréales le matin. En fait, ça a été ça le premier usage par les Quakers, d'ailleurs, cette secte dont on a récupéré le nom pour en faire une marque, qui était la première origine de cet usage de céréales, qui a pu se mondialiser facilement dans des pays comme le pays anglo-saxon ou même la Russie, parce que mélangé avec du lait, on retrouvait quelque chose qui était à la base du repas le matin, qui était les bouillies. Mais c'est vrai que ces céréales, elles ont porté aussi un style américain par ce crisp que j'ai raconté dans le livre, qui est que justement, quand on mange des céréales,
ça croustille.
Ça croustille, et ça, c'est quelque chose que beaucoup les enfants
aiment particulièrement.
Les céréales, je ne sais pas si Gilles me démentira, mais elles ont aussi un avantage, c'est de ne nécessiter aucune cuisson puisqu'elles sont pré-cuites. L'idée de passer au four des pétales qui est venue au docteur Kellogg, qui était médecin d'un hôpital pour mal tuberculeux, et c'est quelque chose qui permet de rajouter du lait et on a le plat. Alors que le porridge ou la kasha russe, qui est du sarrasin, nécessitait une cuisson. Et le petit déjeuner est quelque chose qui laisse très très peu de temps depuis l'organisation de l'emploi du temps en Europe dans le cadre de l'industrialisation au 19e siècle. Donc il faut aller très vite le matin et c'est un des gros atouts des firmes industrielles, c'est qu'elles proposent des aliments qui ne demandent presque pas de temps de préparation.
Pourquoi on appelle ça le petit déjeuner?
Ah,
Christian Grataloup. Alors, sachant qu'étymologiquement, c'est rupture de jeûne, ce qu'on trouve aussi dans les termes breakfast ou desayuno.
Voilà. Oui, c'est la moitié au moins des mots qui désignent le premier repas du matin signifie rupture du jeûne, y compris dans des sociétés qui n'ont aucune origine chrétienne. Hein. C'est le jeûne nocturne qui est brisé par le premier repas qui peut être relativement tardif. Hein. Mais c'est absurde ce fait de dire déjeuner pour midi, puisqu'on a déjà mangé, enfin, quand on a pris un petit déjeuner. Donc, le déjeuner, c'était le nom qu'on donnait en France depuis au moins le XIVe siècle au premier repas de la journée, qui pouvait être assez tardif, hein, mais qui n'était pas le repas de midi, qui était le dîner. Et le soir, on soupait. Alors, remarquons que cette manière de classer, de nommer les trois repas de la journée subsiste dans la francophonie si on s'éloigne de Paris, et si aussi on s'éloigne des catégories sociales les plus aisées. Les Suisses, les Belges ou les Québécois, ou ma grand-mère, disaient souper pour le soir et dîner pour le midi, et déjeuner donc pour le matin. Au XVIIIe siècle, lorsque le déjeuner devient ce repas nouveau, progressivement on va assister à un glissement des types de repas et à Paris, au début du XIXe siècle, le déjeuner se fractionne en deux, on parle du petit et du grand. L'adjectif grand a disparu, mais le petit est subsisté. Mais c'est parisien au départ et ça se diffuse très lentement dans la société.
Alors ça c'était un point d'histoire, hein. Christian Grataloup, on pourrait faire un point géographique ou plutôt de la géographie culturelle, comme vous le faites, Gilles Fumet, et se demander... Comment s'est faite la répartition sucré-salée dans le monde au fil de ces trois siècles de petits déjeuners?
Oui, dans le monde, évidemment, c'est assez compliqué, mais je dirais peut-être simplement au niveau de l'Europe, parce qu'on a quelque chose d'assez curieux qui est qu'à 200 km de distance, on a des Italiens qui, eux, d'abord ne mangent quasiment pas. Donc ça, c'est la première des surprises. Et s'ils prennent un café, éventuellement, ils vont le sucrer. Enfin, on reste dans la sphère sucrée parce que ceux qui, dans la matinée, prennent quelque chose, eh bien, prennent souvent un croissant avec de la crème dedans. Le salé au nord de l'Europe, c'est justement l'héritage de ce repas de milieu de matinée, qui était le repas initial avant le petit déjeuner, qui était effectivement un repas salé. Et donc là, au nord de l'Europe, on reprend ce repas-là, et à la faveur de l'industrialisation qui va imposer des horaires extrêmement contraints, qui sont repris des traditions monastiques de diviser le temps en trois fonctions, prier, travailler et dormir, eh bien ces 3-8 vont en quelque sorte fabriquer un moment le matin, au cours duquel on va pouvoir faire décaler ce repas du matin vers le tout début de la matinée, c'est-à-dire avant le travail. Et c'est là que, en fait, les Allemands, les Anglo-Saxons en général, ont gardé ce repas, parce que il est arrivé aussi à un moment, à la fin du XIXe siècle, au cours de l'abandon de l'idéal hippocratique sur l'alimentation qui faisait que le corps humain était vu comme une machine, et qu'il fallait alimenter la machine exactement comme on alimentait les premières machines à vapeur, avec du charbon, avec du bois. Eh bien, on alimentait notre corps, parce que c'était la grande vision du corps de l'époque, on alimentait notre corps avec ces repas consistants, et ce qu'on appellera ensuite, dans la nutrition moderne, des calories.
Christian Grataloup.
Le volume du petit déjeuner et sa variété sont l'inverse de celui du soir. C'est-à-dire que là où on mange très copieusement et assez tard le soir, on mange peu le matin, voire pas du tout.
Mais ça, c'est vrai dans toute l'Europe?
Alors c'est nord-sud. Les Espagnols étant ceux qui poussent le plus loin le repas du soir et donc un petit déjeuner très tardif, le chocolaté con churros est un peu une gourmandise plutôt de milieu de matinée. Okay. Alors qu'inversement, dans l'Europe du Nord, on mange plus de choses et plus copieusement le matin, mais le soir on mange à la fois tôt et pas beaucoup. Évidemment, il y a une question de climat parce que c'est des pays où on mange tard le soir sont des pays où on fait la sieste aussi, mais c'est lié au climat. On voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, dans les manifestations contre les confinements, que c'est beaucoup plus virulent en Espagne, en Italie qu'en Scandinavie.
Et en France, on mange sucré. On mange même des viennoiseries qui ne viennent pas nécessairement de la France, qui portent leur nom pour une cause
bien
précise.
Oui, il y a
précise,
beaucoup de gens, Marie-Antoinette, etc. Tout ça est faux.
Mais que ça a toujours été comme ça? On a toujours mangé sucré en
D'abord, il fallait qu'il y ait du sucre.
Christian Grataloup.
Oui, il fallait qu'il y ait du sucre. Le sucre, c'est originaire de l'Inde, ça s'est diffusé en Méditerranée très tard. Les Européens l'ont connu avec les croisades, en gros. Et c'est longtemps resté une curiosité, une gourmandise extrêmement chère. C'est au XVIe siècle que ça commence. Hein, Nostradamus a écrit un traité des confitures. Mais vous avez, à partir du XVIIIe, une démocratisation des choses sucrées par la mélasse, qui est du sucre de basse qualité. Et c'est au XIXe que ça se développe.
Oui. Au XIXe aussi, ça développe les vergers. dans les campagnes. Et avoir des vergers, évidemment, c'est avoir des fruits dont il faut assurer la conserve par le sucre. Et le grand développement de la confiture est lié justement à l'abondance de sucre au 19e, sucre de betterave, qui va effectivement entrer dans ce repas du matin et lui donner une coloration sucrée qu'on a beaucoup moins dans le nord de l'Europe.
On a commencé cette émission sur la question du petit déjeuner comme une des manifestations de la mondialisation. On s'est interrogé pour savoir si on pouvait assister aujourd'hui à une américanisation de nos tasses. Encore une fois, pour reprendre le titre de votre ouvrage de Christian Grataloup, Le monde dans nos tasses. Est-ce que l'un et l'autre, vous diriez qu'on assiste aujourd'hui à une uniformisation, à une standardisation des pratiques alimentaires matinales? Ou bien est-ce que chaque région du monde, alors vous le faites dans votre ouvrage l'un et l'autre d'ailleurs sur cet atlas du monde, est-ce que chaque région du monde conserve, malgré tout, résiste et conserve sa propre culture du petit déjeuner? Gilles Fumet.
Moi je dirais que en fait ça dépend de la capacité d'un pays ou d'une région à synchroniser ses modes de vie sur les modes de vie dominants, c'est-à-dire donc des journées de travail, des week-ends de repos et des vacances. Voilà. Et donc à chaque fois en fait que on a une désynchronisation, on a des changements de repas. Ce qui va se passer peut-être avec le confinement qu'on avait déjà vécu et qu'on va revivre, c'est le fait que les salariés qui sont chez eux, qui ne sont pas contraints de manger ou qui ne se sentent pas contraints de manger avant d'aller au travail, vont peut-être déjeuner, justement rompre le jeûne vers 10h du matin, donc exactement comme le font les New-Yorkais avec le brunch. Et dans ce cas-là, on aura un nouveau repas qui fera peut-être qu'on mangera à 10h, et puis on remangera en fin d'après-midi en sautant le repas de midi qui est déjà très léger quand on est salarié.
Bon, c'est est-ce qu'on mange ou est-ce qu'on mange pas le matin, mais qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes aussi ou dans nos tasses, Christian Grataloup?
Il y a une chose qui est vraiment mondialisée, c'est le café. C'est de loin la boisson la plus bue au monde après l'eau. Hein. Et le fait de prendre du café le matin, c'est quelque chose qui s'est très largement diffusé, qui continue à se diffuser. On l'a vu dans le Japon à partir de 1945. On le voit en Chine aujourd'hui. Le café, c'est quelque chose qui effectivement devient une sorte de norme mondiale. En revanche, les sociétés comme les sociétés européennes où le petit déjeuner était extrêmement organisé, ce petit déjeuner, c'est le repas où on ne se pose pas la question, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, à la différence des autres repas.
C'est souvent un peu la même chose tous les matins.
On mange généralement toujours la même chose le matin.
Sauf Mathéo.
Et donc
vous êtes-il dit.
On a à ce moment-là des choses tout à fait codifiées. Mais au contraire, aujourd'hui, mais c'est lié au rythme de vie. Lorsqu'on fait les 3-8, comme disait Gilles Fumet, lorsqu'on allait à l'école, l'usine, le bureau, la caserne avait exactement les mêmes horaires et les mêmes normes, bah, effectivement, on mangeait la même chose. Maintenant, on est dans des sociétés beaucoup plus souples et le télétravail ne doit pas arranger les choses, ou en tout cas les arranger peut-être, au contraire, pour multiplier les possibilités alimentaires qui deviennent beaucoup plus, en termes d'horaire et en termes de produits consommés, très différentes.
Je voudrais une wamlette jambon fromage et une wam frite normale.
Je suis navrée, nous ne savons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner.
Je voudrais un petit déjeuner.
Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus.
Je ne veux pas de déjeuner, je veux un petit déjeuner.
Mathéo, c'est à vous pour la Madeleine. On va s'interroger après sur la fin du petit déjeuner. Mais d'abord la Madeleine, avec vous et votre interlocuteur aujourd'hui.
Et oui, Amin Maalouf, l'auteur de biographies imaginaires et de paraboles philosophiques comme Léon l'Africain ou Le Naufrage des Civilisations, qui a publié à la rentrée Nos Frères Inattendus chez Grasset. Eh bien, il y dépeint une humanité esselée dont le secours viendrait d'hommes venus de la Grèce antique qui auraient traversé le temps pour nous aider avec leur savoir médical avancé pour lutter contre la mort. Eh bien, passons des voyages imaginaires d'Amin Maalouf au voyage culinaire du petit déjeuner, puisque pour sa Madeleine, il m'a parlé du petit déjeuner libanais.
Ma Madeleine, c'est un petit déjeuner libanais qui s'appelle knafé. Je me souviens d'une tante à moi que j'aimais beaucoup, qui travaillait à l'université américaine à Beyrouth. Et un jour, il y avait un professeur qui arrivait des États-Unis pour passer une année d'enseignement. Elle avait décidé de lui faire connaître cette knafé. Et elle a raconté que pendant tout leur séjour, lui et sa femme, pendant un an au Liban, tous les matins, ils ont mangé cela tellement ils avaient trouvé ça merveilleux. C'est un plat extraordinaire que je ne mange pas souvent, malheureusement, depuis que j'ai quitter le Liban, mais chaque fois que j'ai l'occasion d'en manger, c'est une merveille. Et souvent, quand il y avait des fêtes familiales, durant ces fêtes familiales, surtout le matin. Il y avait des petits déjeuners familiaux et on apportait un immense plateau de knafé. C'est un plat compliqué qui se prépare surtout chez les pâtissiers. Vous savez, au Liban, les pâtisseries, c'est quasiment des palais. C'est-à-dire, on a des pâtisseries sur 3 ou 4 étages où les gens vont à divers moments de la journée, ils mangent les spécialités. Ce n'est pas simplement un endroit où on prend des pâtisseries pour les manger à la fin du repas. Et donc, il y a des pâtisseries à Beyrouth, à Tripoli, à Saïda, et aussi pour le knafé à Naplouse. Et en fait, la texture fait partie de la séduction de ce plat pour moi. Je ne saurais pas dire exactement comment il est fait. Simplement, je sais qu'il y a du fromage fondu, une sorte de semoule, peut-être grillée ou frite, et du sirop de sucre. Souvent, on le mange dans des galettes, mais parfois aussi simplement dans un plat. Et on le croquait un peu comme un sandwich. Le goût est sucré, bien sûr. Le plat lui-même, la semoule et le fromage ne sont pas du tout sucrés. D'ailleurs, le fromage qu'on utilise, on le met dans l'eau un long moment avant pour enlever le sel. Et donc, le knafé lui-même n'est pas du tout sucré. Et chacun sucre avec le sirop de sucre, donc on peut en mettre un peu ou beaucoup. Et ça permet de le manger avec les goûts qu'on aime aujourd'hui, c'est-à-dire très légèrement sucré plutôt que noyé dans le sucre.
Et vous alors, Gilles Fumet et Christian Grataloup, prenez-vous des petits déjeuners à l'ancienne, c'est-à-dire très sucrés, noyés dans le sucre, comme le disait à l'instant Amin Mahalouf, ou plutôt d'aujourd'hui, c'est-à-dire légèrement sucré, Christian Grataloup?
Oh, légèrement sucré, mais j'aime bien les confitures. D'ailleurs, je les fais. Donc, je mange mes confitures. Et puis, je mange des fruits aussi. Donc, effectivement, des tartines de pain grillé aussi. Et du fromage blanc.
Ouh là là, plein de choses qui vont pas du tout.
Je les mange au moins 3 heures après m'être levé. Je les mange pas au lever.
Je vais vous dire, ça va très très bien. Je crois qu'il faut être très décontracté vis-à-vis de cette question-là. Mais juste se dire que si on n'a pas faim, ce n'est pas grave et qu'on a le droit de ne pas manger. Mais que si on a faim, qu'on a grand-mère qui a fait des confitures, ou même pas grand-mère, mais qu'on a fait des confitures soi-même. Et puis surtout, ce qu'a dit Amin Mahalouf dans son texte, c'est une tante que j'aimais, c'est la tante que j'aimais, dans une fête familiale. Voilà, dans ce contexte-là, évidemment, tout ce qui se passe, tout ce qui est offert, évidemment, à cette touche affective qui est considérable et qui fait que, évidemment, dans un contexte banal, ça n'aura pas le même prix. Donc c'est très très important. Moi, personnellement, je prends très très peu de petits déjeuners. Je fais comme les Italiens. Donc juste un ristretto et puis quelque chose dans la matinée si j'ai besoin. Mais je suis de ceux qui, pour qui le petit déjeuner est quelque chose qui n'est pas indispensable.
Pas indispensable, c'est ce que vous nous expliquez dans Feu sur le breakfast, puisque vous allez à l'encontre de ce qu'on nous dit encore aujourd'hui. Cela dit, on a grandi dans l'idée que c'est le repas le plus important de la journée, que les diététiciens nous ont répété que le petit déjeuner représentait le tiers, voire le quart de l'apport calorique quotidien, et vous nous dites non, c'est faux.
Alors, j'ai insisté sur le fait que le corps a ses raisons que nous on ne connaît pas souvent, et que les biologistes que nous ne sommes pas, parce que nous ne sommes pas des spécialistes, ni les médecins ne connaissent pas, c'est que nous avons à notre disposition une hormone qui s'appelle le cortisol, qui fait ce travail du réveil, et qui fait que lorsque je vais en Amazonie, comme ça s'est passé au mois de novembre dernier, que je vois les peuples amérindiens ne pas manger durant les 3 heures qui suivent leur réveil, eh bien, je retrouve en quelque sorte les mêmes rythmes que j'ai observés chez les paysans jusqu'au 19e siècle, que j'ai vu chez le roi Louis XIV et Napoléon, dont j'ai pu décortiquer justement le début de matinée. Il n'y a pas de petit déjeuner. Et donc, où on s'aperçoit que ce repas est arrivé un peu à notre insu. Voilà. Et avec des nutritionnistes, il faut le dire, qui sont quand même très largement en cheville avec l'industrie agroalimentaire pour nous faire manger ce qu'on n'a pas envie de manger, hein, et qui arrive à nous faire manger quand on n'a pas faim.
Donc distribuer du lait aux petits écoliers dans les années 50 ou aujourd'hui donner des petits déjeuners gratuits dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, c'est une mauvaise idée pour vous ?
Non seulement c'est une mauvaise idée, mais elle est abandonnée. Les essais qui ont été faits en 2018, voilà, n'ont pas été concluants en 2019. Il y a eu des études qui ont montré que les enfants à qui on donnait un petit déjeuner, mais qui concernaient aussi ceux qui avaient déjà un petit déjeuner et qui mangeaient une deuxième fois, eh bien, étaient victimes d'un surpoids. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est à mettre en rapport avec tout un système qui fait que dans l'agroalimentaire, la principale raison de l'industrie, c'est de nous faire manger, et de nous faire manger beaucoup, et le plus souvent possible, comme à la télévision, vous savez, ce morceau de cerveau disponible, ben, bon, c'est la même chose. Et il faut savoir que les industriels jouent beaucoup sur cette faiblesse que l'on a, au fond, de ne pas connaître notre corps, et surtout d'être beaucoup plus sensible aux injonctions publicitaires qu'au langage de notre propre faim.
Le petit déjeuner, cela dit, concurrencé un peu de partout, d'abord par ce mouvement locavorisme, parce que comme le dit Christian Grataloup, le petit déjeuner c'est tropicavore quand même, puisque ça vient d'un peu partout. De plus en plus de gens, peut-être même de jeunes gens, sautent le petit déjeuner en ayant entendu ou compris ce que vous disiez, Gilles Fumet. Et puis le petit déjeuner cède la place parfois à un repas du matin plus tardif, qu'on mange d'ailleurs souvent le dimanche aux alentours de midi, qui est une contraction de deux mots anglais, hein, breakfast et lunch, ça a donné le brunch. Bon, puisque, en tout cas, les États-Unis sont à l'honneur ce week-end et qu'on a parlé du breakfast, un clin d'œil musical s'impose pour finir cette émission. Super Trump, Breakfast in America. Merci beaucoup à tous les deux, à Gilles Fumet, Feu sur le breakfast, c'est votre livre comme un manifeste, hein, aux éditions Terre Urbaine. Christian Grataloup, Le Monde dans nos tasses, une 3 siècles de petits déjeuners vient donc de sortir en édition de poche et vous venez tout juste de faire paraître un atlas, votre dernier atlas, on va dire l'atlas historique de la France aux éditions Les Arènes. Un grand merci à tous les deux d'être venus dans cette émission Les Bonnes Choses qui se poursuivent en réécoute et en podcast sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Toute l'équipe, Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicienne du jour, Déborah Dagobert, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weitzman. Bon dimanche à tous.